Depuis les temps les plus reculés, les hommes ont puisé dans le monde végétal pour se soigner. Des milliers de plantes qui sont à l'origine de nombreux remèdes et auxquels la science s'intéresse pour comprendre et exploiter leurs vertus médicinales. Quelle est l'efficacité réelle des plantes? Comment sont-elles évaluées par la science et comment les choisir pour se soigner au mieux? Le dossier de la tête au carré s'intéresse donc à ces plantes qui guérissent à l'occasion d'une exposition qui est à voir en ce moment dans les Côtes d'Armor. Et vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, la nouvelle étude du professeur Gilles-Éric Séralini qui risque de faire à nouveau beaucoup de bruit. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. D'après le biologiste, de très nombreuses études toxicologiques pourraient être biaisées par la nourriture que les chercheurs donnent aux rats. On vous explique dans un instant avec vos questions sur Twitter, hashtag l'attaque.
C'est Violaine Ballet qui réalise cette tête au carré, dossier préparé par Lucie Sarfati et Thomas Delosier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le pouvoir thérapeutique des plantes, ça sera donc le dossier dans quelques minutes. Pour en parler, je reçois en studio à Paris le docteur Laurent Chevalier. Bonjour.
Bonjour.
Et en duplex de Metz, le docteur Jacques Florentin. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Laurent Chevalier, vous utilisez le terme de décroissance médicamenteuse. C'est un mouvement de fond là pour parler du recours aux plantes pour se soigner en ce moment ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on consomme beaucoup trop de médicaments. 3 milliards de boîtes de médicaments sont vendues chaque année en France. Ce qui est tout à fait problématique. Ensuite, d'une manière générale, il y a une prise de conscience sur l'excès de prise de médicaments et on voit que 90% des personnes sont prêtes à ce qu'on revoie un petit peu leur ordonnance à la baisse. Mmh. Et dans un certain nombre de situations, les plantes peuvent être un adjuvant, une alternative et souvent complémentaire.
Jacques Florentin, il faut cependant rester prudent avec l'usage des plantes parce que leur utilisation n'est pas sans risque.
C'est vrai. En fait, tout est très bien fait puisque nous disposons en France et en Europe d'une liste de 200 plantes d'usage traditionnel et dont les propriétés sont largement démontrées. Ces plantes sont non toxiques et on a de quoi faire pratiquement dans tous les domaines. Mais pour revenir simplement sur l'émission précédente qui parlait effectivement de Napoléon.
Oui.
Napoléon qui souffrait d'ulcères à l'estomac voyageait en permanence sur les champs de bataille avec des bâtons de réglisse, avec la racine de réglisse.
C'est ce que nous disait Jean Lebrun, justement, ouais. Tout à l'heure.
Et ce réglisse, en fait, est utilisé depuis 3000 ans. Les Grecs le connaissaient déjà, la médecine arabe, la médecine indienne, la médecine chinoise, tout le monde l'utilise. Et aujourd'hui, on a des preuves extrêmement concrètes de ce réglisse. D'abord, il est anti-inflammatoire et anti-ulcéreux. Alors, ça justifie l'usage qu'en faisait Napoléon. Et vous remarquerez dans cette plante, non seulement il est anti-inflammatoire, mais aussi anti-ulcéreux. Mmh. Alors que les anti-inflammatoires, en général, ont comme effet secondaire les ulcères.
Allez, on se retrouvera dans un instant, justement, Jacques Florentin, pour en parler. On en discutera avec vous dans quelques minutes. Les messages et les questions des auditeurs arrivent déjà. Elles sont nombreuses sur franceinter.fr. Les études toxicologiques faites sur les rats depuis des années sont-elles largement biaisées? C'est à la une de la science aujourd'hui et c'est vous qui l'affirmez, Gilles-Éric Séralini. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de biologie moléculaire à l'Université de Caen. Vous avez mené en partenariat avec le CRIGEN une analyse de la nourriture donnée aux rats dans les laboratoires du monde entier. À côté de vous, dans ce studio, notre chroniqueur médecin Dominique Dupagne. Bonjour.
Bonjour
Dominique.
Mathieu.
Gilles-Éric Séralini, dans la nourriture donnée donc aux rats et qui servent aux études toxicologiques, vous avez trouvé des traces d'OGM, de pesticides, de dioxines, d'autres produits potentiellement dangereux. Juste avant de parler de ces résultats, la publication justement dans la revue PLOS ONE n'est pas encore disponible. Pourquoi est-ce que vous choisissez quand même d'en parler avant la publication définitive?
Parce qu'avec PLOS ONE, voilà plus d'un mois, nous avions convenu d'un embargo qui se terminait hier soir.
Ouais.
Il devait le mettre en ligne à 20h, c'est-à-dire à 9h, ou à 11h, heure californienne, puisque le bureau est en Californie. Et nous apprenons le même jour, c'est-à-dire hier, qu'en fait, ils vont retarder l'étude. Alors, on leur a dit, mais il y a déjà des télévisions, des journaux qui se sont annoncés à la conférence de presse. On va pas leur dire qu'on s'est trompé, parce que vous remettez pas en cause les résultats. Ils ont dit, non, on voudrait raccourcir le résumé et aussi dire que vous avez des conflits d'intérêts parce que vous êtes financé par des fondations. Alors, je dis, mais c'est pas des conflits d'intérêts. Vous publiez tout le temps Monsanto et Bayer, et même l'ILSI, le grand cabinet européen de biotechnologie, en moins d'un mois. Et ça, c'est des gens qui font des études sur leurs produits et qui sont payés par les boîtes. Et donc, ils disent oui, mais c'est notre politique, etc.
Comment vous expliquez ce report, concrètement ?
Écoutez, je ne voudrais pas dire qu'il y a des conflits d'intérêts. On verra avec le temps s'il rétracte l'étude. Je pose la question très officiellement parce que nous avons été victimes par trois fois de graves conflits d'intérêts dans les revues qui ont mis en cause nos études. Mmh. Alors, quelquefois, ça s'est bien passé et c'est simplement les industriels des bureaux éditoriaux qui ont démissionné. Mmh. Et quelquefois, ça s'est mal passé. Ils ont rétracté nos études qui ont été republiées ailleurs.
Donc, problème de conflit d'intérêts, Dominique Dupagne, on pourrait le comprendre. C'est une étude
plus qu'à la FIFA. Et c'est plus d'argent qu'à la FIFA avec tous ces produits.
Dominique Dupagne, il y a des enjeux très forts, évidemment.
Bien sûr. Et c'est vraiment terrible, parce que autant j'avais pu être critique sur cette même antenne, sur l'étude de 2012, sur les rats, sur l'étude elle-même, autant j'ai trouvé invraisemblable sa rétractation et le sort qui lui a été fait. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un lobby extrêmement puissant partout dans la presse, et qu'arriver à publier est difficile, la preuve, ce qui arrive aujourd'hui. Ouais.
Alors justement, allons au cœur de l'étude.
Oui, on va aller parler de l'étude. Cette nourriture donnée aux rats, comment fait-elle pour fausser ses tests de toxicité? Parce que c'est ce que vous dites dans ce papier.
Oui, en fait, on se rend compte, c'est une étude très large, sur 5 continents, sur 13 échantillons qui viennent de 9 pays, et on se rend compte que la nourriture qu'utilisent les industriels pour les tests réglementaires en particulier est extrêmement contaminée, à des doses qui sont bien plus fortes que ce qu'on appelle les doses journalières admissibles, c'est-à-dire que même les agences réglementaires qui, elles, considèrent des doses assez élevées à risque, nous disent que on est à 40 fois le risque, ou 15 fois le risque selon les produits. On va trouver des métaux lourds, des dioxines, des PCB, des OGM, pour lesquels ils n'admettent pas le risque, seulement pour les OGM, et des pesticides. Ouais. Et donc, on a trouvé, là, en faisant cette vaste étude sur autant de contaminants, c'était la première fois, et sur les différents continents, très difficile d'avoir la nourriture de 5 continents parce qu'il a fallu que les collègues les achètent et nous l'envoient. Eh bien, on a trouvé que les industriels disaient qu'il y avait, et c'est ce qu'ils avaient reproché dans notre étude, jusqu'à 90% de tumeurs hypophysaires ou 70% de tumeurs mammaires naturelles, comme ça, spontanées chez ce rat, au bout de 2 ans. Et nous, quand on n'a pas donné de pesticides ni d'OGM à des rats pendant 2 ans, on en trouvait 5 fois moins. Et donc, ça monte, si vous voulez, le bruit de fond de ce qu'ils trouvent comme tumeurs dites naturelles, frauduleusement, à notre avis, ça monte le bruit de fond à un tel niveau qu'en fait, ils sont capables de masquer tous les effets secondaires des produits testés depuis 70 ans.
Donc, ça veut dire concrètement que ces croquettes 250 000 produits, données à ces rats biaisent les études qui sont menées d'emblée, au fond.
Et évidemment. Et si vous voulez, nous, elle a été, cette étude, inspirée par le fait qu'il nous ait dit, mais attendez, notamment à l'Assemblée nationale à Paris, ces tumeurs, elles sont naturelles. On a dit, mais pourquoi ils disent ça alors que nous, quand on a fait notre nourriture, sans OGM ni pesticides, on en avait 5 fois moins. Mmh. Et ben, ils disent, ben, parce que voilà, c'est comme ça. Alors donc, on a décidé de regarder ce qu'ils donnaient à manger à ces rats, et c'est là qu'on s'est rendu compte que même des sociétés industrielles avaient utilisé cette nourriture pour valider
ça
des OGM.
Ça, partout dans le monde, effectivement. Dominique Dupagne, la dernière fois que vous étiez face à Gilles-Éric Séralini, vous étiez assez critique par rapport à ses travaux.
Ah oui, Marie.
Qu'est-ce
souvent.
Que vous pensez de l'étude là qui...
Moi,
qui
je la trouve absolument remarquable. Et je ne sais pas si tout le monde a bien compris le principe, mais on veut savoir si un produit est toxique. Donc, on met la moitié des rats qui mangent le produit, en plus de ses croquettes, et l'autre moitié des rats qui mangent pas de produit. C'est simple, c'est comme ça qu'on fait pour les médicaments. Qu'est-ce que découvre Gilles-Éric Séralini? C'est que le groupe témoin qui est censé manger de la nourriture bio, d'une certaine façon, mange en fait des croquettes qui contiennent exactement pas forcément le même dosage, mais qui contiennent les mêmes produits que ceux qu'on teste dans l'autre groupe. Ouais. Donc, quand vous ne trouvez pas de différence entre les deux groupes, comment pouvez-vous conclure à l'innocuité d'un produit puisque vous avez la même chose des deux côtés? Je trouve que c'est la réponse du berger à la bergère. Il a été accusé de manquer de rigueur dans certaines études. Mais alors là, il démontre quoi? Ben, il démontre que les études des industriels, en fait, sont faites avec une rigueur, mais absolument nulle. Et moi, honnêtement, je trouve qu'on devrait rétracter la totalité des études de Monsanto et de Dupont.
Mais c'est extrêmement grave, parce qu'il n'y a pas de neutralité.
Mais c'est
justement
fou, c'est complètement fou.
Dans les éléments donnés à ces rats pour les études.
Nous, on pense naïvement qu'on donne des granulés bio aux rats, si vous voulez, dans le groupe témoin. Pas du tout.
Jamais. Hélas.
Combien, Gilles-Éric Séralini, de produits sont concernés par ces révélations-là, aujourd'hui?
De produits qui ont été testés avec ces groupes, tous. Tous, c'est ça le problème. Environ 250 000 sont sur le marché, mais on ne sait pas exactement combien ont été testés pendant 2 ans, parce que c'est surtout des maladies chroniques qui leur servent de référence, qui auraient été dues à pas de chance, alors qu'en fait on trouve que c'est dû à ces contaminations. Probablement au moins 100 000 produits.
Vous avez un exemple précis d'études faussées par l'utilisation d'une nourriture non appropriée, justement?
Alors oui, dernièrement on a autorisé à l'Europe l'importation de colza tolérant au Roundup, parce qu'on autorise les contaminations de tous les OGM. femmes. Et l'autorisation avait été donnée sur la base d'une étude de 90 jours seulement de la société Dupont qui avait utilisé dans son groupe contrôle. Alors on a mis la main sur la nourriture du groupe contrôle, le même lot, etc. Ça a été difficile, mais on l'a fait. Et on a trouvé qu'il y avait jusqu'à 40% d'OGM dans le groupe contrôle, et dont 18% étaient, c'est-à-dire ça représente ce que mangent les Américains, avec le même caractère tolérant au Roundup, et qu'il y avait 3700 fois plus de résidus de Roundup que ce qui avait donné des tumeurs et des maladies rénales dans notre étude, donc dans les contrôles. Donc ils disaient, en bout de 3 mois, qu'ils voyaient des effets secondaires, mais bon, mais que c'était dans la norme des rats. Et en fait, on trouve que la norme des rats est complètement faussée par ces données.
En 2012, Générique Serralini, les industriels se sont beaucoup attaqués à vos méthodes. Là, vous faites la même chose, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est ça?
Non, le but de mon laboratoire...
Les tumeurs sur les rats, justement, liées aux OGM.
Vous savez, nous, on joue la transparence. De plus en plus, on publie en open source, maintenant que les revues nous le permettent, parce qu'elles n'ont pas toujours permis. Et en fait, on se fiche un peu des industriels eux-mêmes en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils font leur métier tant qu'ils le font bien. Mais le but de mon laboratoire, c'est de voir les effets des polluants à long terme. Donc quand on m'a dit ces tumeurs sont naturelles, alors que je les trouvais spécifiques à l'étude que j'avais faite, notamment à un OGM et à de très faibles doses de Roundup, ben, j'ai voulu savoir pourquoi ils disaient ça. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y a des politiques, l'ancien président du groupe à l'Assemblée nationale de l'UMP, qui me traitait de fraudeur à cause de ça. Vous savez que Henry Miller, quelqu'un qui a défendu, et je l'explique dans mon dernier livre où j'avais révélé tout ça, vous m'aviez reçu gentiment, Henry Miller qui défend le tabac pour Philip Morris en disant c'est pas cancérogène, avait écrit que j'avais fait une fraude dans le magazine Forbes parce que j'avais utilisé ces rats. Et donc l'idée, toute la critique tenait sur le fait que ces rats sont pas bons parce qu'ils développent des tumeurs, donc il en faudrait des centaines, voire des milliers par groupe, et donc c'est pas spécifique ce qu'on met en évidence.
Dominique Dupagne, pour terminer, une telle étude pour les industriels, qu'est-ce que ça peut représenter là aujourd'hui? Parce que c'est plus qu'un pavé dans la mare.
Là, c'est une grosse menace. Ça veut dire que la sécurité des produits pesticides, qui est affirmée à partir d'études qui ont donc été faites dans des conditions de rigueur insuffisantes, n'est plus assurée. Et là, je trouve que les écologistes marquent un point important qui va demander une réaction scientifique solide.
Gilles Eric Serralini, les publications donc dans PLOS ONE, c'est pour quand, a priori, maintenant, officiellement?
Hier, PLOS ONE l'a retardé sans qu'on sache quand, en nous demandant des révisions mineures qu'on a envoyé hier soir. Ils nous ont dit qu'ils allaient contacter leur bureau de production, mais vous savez ce qui s'est passé grâce à ça? Eh bien, il s'est passé que les grandes agences de communication américaines n'en parlent pas, et n'en parleront pas parce qu'après, c'est trop tard.
Mais là, vous êtes en train de casser l'embargo, au fond, hein?
Et écoutez, nous, on joue la transparence, on l'assume, au risque de se faire rétracter pour ça, mais on l'assume parce que l'important, c'est la santé publique. Et donc, après tout, si les gens n'en parlent pas, c'est qu'ils sont contents de manger des nourritures contaminées, parce que ça représente aussi la contamination de la nourriture humaine.
Le plus important, c'est d'en parler, de le publier en open source, par exemple.
Voilà.
Oui, ce que je veux dire, d'abord, ils n'ont pas cassé l'embargo, parce que l'embargo, c'est fini, la date est arrivée, donc c'est simplement la revue qui a retardé la publication. Mais surtout, le fait qu'à la dernière minute, qu'il y ait une panique comme ça dans la revue, montre à quel point les pressions sont encore très fortes dans les rédactions scientifiques de la part des industriels. Il y a une évidence là-dessus.
Des pressions et des réactions. Il suffit d'aller sur le site de la Tête au Carré pour s'en apercevoir, Axel. C'est absolument incroyable.
Dès
il suffit d'écrire votre nom
venue,
sur la page Facebook de l'émission.
Les réactions se sont accumulées en l'espace de 2 heures. Donc voilà, un petit peu ce que peut augurer la suite. Bonne et mauvaise.
Bonne et très mauvaise aussi. Beaucoup de commentaires sur Gilles-Éric Serralini. Ben, vous pouvez d'ailleurs en faire sur la page Facebook de la Tête au Carré. Plaisir cuisiné ou poison caché, c'était chez Actes Sud, justement, votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, Gilles-Éric Serralini. Merci également à vous, Dominique Dupagne. Et puis juste un petit mot pour dire aux auditeurs qui peuvent podcaster ce rendez-vous de la Une de la Science, Axel.
Et pour remercier les auditeurs, surtout parce qu'on a une très bonne nouvelle, on a dépassé le million de podcasts en un mois, c'était le mois de mai. Merci beaucoup à tous, merci de votre fidélité.
C'est pas moi qui applaudis, c'est Dominique.
Voilà, continuez. Dominique est très content, je pense que c'est notre premier podcasteur.
Et c'est notre premier million, donc on est absolument ravis. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les premières étoiles de l'univers auraient été repérées par des astrophysiciens européens. Elles appartiennent à la galaxie nommée CR7 et sont à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Ces étoiles se révèle là dans leur enfance, 800 millions d'années après le Big Bang. La mesure du rayonnement global de CR7 montre un taux de métal très faible et une abondance en hydrogène et en hélium. Ces caractéristiques sont propres à la première génération d'étoiles nées du Big Bang. De tels astres n'avaient jamais été observés avant et confirment les théories des astrophysiciens sur les débuts de l'univers. Selon une étude nord-américaine, la pollution dans l'air tuerait plus que le sida ou le paludisme. Elle affirme qu'une politique d'abaissement du taux de micro-particules dans l'air pourrait éviter plus de 2 millions de morts prématurées. Selon l'OMS, la majorité de la population mondiale vit avec des concentrations supérieures à 10 microgrammes par litre d'air, le maximum souhaitable par l'agence. Et puis pour finir, elle s'appelle Mathilda. Cette chatte est en ce moment une véritable star du web à cause de ses gros yeux globuleux. Ce félin est en fait atteint d'une luxation du cristallin. Cette affection vient d'un défaut au niveau du ligament censé assurer le maintien du cristallin dans l'œil. Il devient donc mobile et provoque un décollement de la rétine. La maladie peut mener à la cécité en seulement quelques mois. Les propriétaires de cette chatte ont donc décidé de la faire opérer. Vous pouvez retrouver cette photo étrange de Mathilda sur la page Facebook de La Tête au Carré. Des plantes qui soignent peut-être pour Mathilda, c'est dans un instant notre dossier. Give me all your loving avec ZZ Top sur France Inter.
Ceci est un neurolaser.
Carré.
Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
Ces plantes qui nous soignent, dossier donc de La Tête au Carré. Cet après-midi, Jacques Florentin, vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Metz. Vous êtes docteur en pharmacie, ethnopharmacologue, président de la Société française d'ethnopharmacologie. Et vous publiez du bon usage des plantes qui soignent aux éditions Ouest France. Et vous êtes aussi le directeur scientifique de l'exposition des hommes et des plantes qui soignent. C'est à voir en ce moment en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à La Roche Jagu. Laurent Chevalier, vous êtes médecin nutritionniste, praticien attaché au CHU de Montpellier. Vous dirigez une unité de médecine environnementale dans une clinique à côté de Montpellier. Vous publiez « Moins de médicaments, plus de plantes » aux éditions Fayard.
Et botaniste.
Et les questions et les messages des auditeurs arrivent sur le site de l'émission franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. De quoi s'occupe exactement l'ethnopharmacologie, Jacques Florentin ?
Alors c'est une science interdisciplinaire, c'est-à-dire qui va travailler avec des ethnologues, avec des botanistes, avec des pharmaciens, des médecins, des chimistes aussi, des toxicologues. En fait, l'idée, c'est d'aller recenser partout dans le monde le savoir des tradipraticiens. Ça implique un travail d'équipe, ça implique de rassembler sciences de la vie, sciences de l'homme, pour bien comprendre comment fonctionnent ces médecines traditionnelles.
Vous êtes parti dans quel pays en particulier pour l'étudier ?
Alors, j'ai en fait découvert cette discipline en allant au Yémen. Je suis parti comme pharmacien coopérant, responsable d'un laboratoire d'analyse médicale dans un hôpital yéménite. Et pendant 3 ans, j'ai mené des enquêtes auprès des guérisseurs. Et j'ai eu la chance d'avoir un sujet de thèse qui était le même que celui d'une anthropologue américaine. Sauf qu'elle, c'était comprendre comment fonctionne la médecine traditionnelle. Et mon sujet de thèse, c'était de recenser les plantes utilisées par le peuple ou par les guérisseurs.
Et en 86, donc, vous avez créé la Société française d'ethnopharmacologie au cloître des Récollets à Metz. Jean-Marie Pelt a été votre professeur aussi, hein, on peut le signaler.
Il a été mon professeur, il a été mon guide. Je l'ai suivi pratiquement depuis la deuxième année de mes études en pharmacie. Et nous travaillons toujours ensemble actuellement dans le développement de cette discipline. Et surtout dans le recensement de ces savoirs. Il est urgent de les recenser parce que un jour ou l'autre, ils disparaissent, surtout quand on a affaire à des traditions orales, comme c'est le cas en Afrique.
Et donc, dans votre livre du bon usage des plantes qui soignent, vous présentez 155 plantes classées en fonction de leur indication thérapeutique. Et sur quels critères, justement, vous les choisissez, ces plantes ?
Alors, le premier critère, ce sont déjà des plantes qui ont un statut officiel en Europe. C'est-à-dire qu'elles font partie de la pharmacopée française ou européenne. Ça veut dire qu'elles ont été étudiées et surtout qu'on a éliminé les plantes toxiques. Alors, pour revenir à ce que disait Gilles Rex-Serralini, on a toujours dans les plantes nouvelles et exotiques qui arrivent, soit par des effets de mode, soit par Internet, on a toujours un risque d'avoir une plante cancérigène. Et pour cela, eh bien, quand elles rentrent dans les pharmacopées françaises ou européennes, on fait ce qu'on appelle un test d'Ames, pour démarrer, pour être au moins sûr qu'elle n'est pas cancérigène.
Oui. Qui peut justement donner des conseils, sachant que le métier d'herboriste a disparu ? C'est une question de viron sur le hashtag l'attaque, Laurent Chevalier.
Alors, écoutez, les pharmaciens sont tout à fait habilités à donner des conseils, et puis, bien sûr, aussi les médecins, puisqu'il faut toujours faire ça en collaboration avec des médecins, qu'un diagnostic précis soit posé. Concernant l'herboristerie, vous savez qu'il y a eu un vaste débat il y a quelques temps, et j'avais participé à l'élaboration d'un projet de loi dans ce sens-là. Et en fait, il y a eu une fin de non-recevoir de la part du ministère, non pas pour des raisons politiques, mais pour une raison qui était très simple, qui était de dire qu'il voulait pas créer une nouvelle profession de santé. Et en fait, quand le métier d'herboriste a disparu à peu près en 1941, il a fusionné avec celui de pharmacien, c'est-à-dire qu'on a demandé aux pharmaciens d'avoir une bonne connaissance concernant les plantes. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le tout médicament chimique est arrivé, et bien souvent les pharmaciens ont oublié qu'ils étaient aussi herboristes. Et ça, c'est tout à fait dommage. Heureusement, il y a un mouvement inverse qui est en train de se passer maintenant. Le fait d'aller dans une pharmacie, c'est aussi, je dirais, une garantie pour le consommateur. Donc malheureusement, dans certaines universités, mais pas dans toutes, on enseigne assez peu la botanique et les plantes médicinales pour l'enseignement de pharmacie, mais encore une fois, c'est une chose qui est en train d'évoluer.
Moins de médicaments, plus de plantes, donc ça c'est le titre de ce livre que vous publiez chez Fayard. Et là, vous tirez la sonnette d'alarme en ce qui concerne la surconsommation de médicaments et ses effets, évidemment, sur la santé.
Surtout qu'il existe des alternatives possibles par les plantes. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a quand même entre 8 à 12 000 personnes qui sont victimes chaque année des médicaments, deux fois plus que les accidents de la route, que l'on a aussi, ce qui est tout à fait, ça c'est les chiffres de la sécurité sociale, entre 10 et 20% des personnes de plus de 65 ans qui sont hospitalisées à cause d'un mauvais usage des médicaments. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, on a 13 millions de personnes en France qui prennent plus de 4 médicaments par jour, et là ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui se passe. Donc il y a mouvement qui doit se créer pour limiter l'usage un petit peu de ces médicaments. Les plantes peuvent être des alternatives. Et puis aussi, si vous permettez Mathieu, d'insister sur un point qui paraît tout à fait fondamental. L'automédication qui est faite actuellement avec des traitements allopathiques de type anti-inflammatoire, antidouleur, etc., pose tout un tas de problèmes. Tout un tas de gens font des hémorragies digestives, se retrouvent ensuite aux urgences, alors que on peut avoir une automédication bien pensée, on va en reparler un petit peu, par les plantes dans un certain nombre de cas, mais toujours que le diagnostic soit posé par un médecin.
Plus de 90% des personnes âgées de plus de 80 ans consomment en moyenne 10 médicaments par jour. C'est ce que démontrait une enquête menée par l'hôpital Georges Pompidou en 2013. Voici l'extrait d'un reportage diffusé dans Allô Docteur il y a 2 ans.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près 10
molécules. Une dizaine de médicaments. Telle est la consommation moyenne des personnes âgées de plus de 80 ans. Les auteurs de l'étude coordonnée à l'hôpital européen Georges Pompidou décryptent les causes et les problèmes posés par l'addition des ordonnances chez les seniors.
Chaque pathologie a sa réponse médicamenteuse. Par exemple, vous êtes hypertendu, on donne des antihypertenseurs. Vous avez eu un infarctus du myocarde, on va donner un médicament contre le cholestérol. Vous avez fait un accident vasculaire cérébral, on va vous donner de l'aspirine. Si vous avez un peu de tout ça, vous êtes tout bêtement une personne âgée, à ce moment-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 médicaments. Ajoutons des médicaments plus discutables, très prescrits dans notre pays, les antidépresseurs, les anxiolytiques, et vous arrivez rapidement à 6-7 médicaments, entre guillemets, naturellement prescrits.
Voilà, donc surconsommation, Laurent Chevalier. Et pourtant, les utilisateurs sont conscients quand même des risques hein, liés à,
oui.
à cette exagération, on pourrait dire, médicamenteuse.
Oui, et puis, si vous voulez, je pense qu'il y a une réponse qui n'est pas tout à fait adaptée de la part de certains médecins aussi, c'est-à-dire que les personnes prennent un médicament, tout d'un coup, ben ça a des effets secondaires, on a mal au ventre, on a des nausées, et du coup on leur redonne un médicament qui pose encore plus de problèmes et qui va leur donner mal à la tête ou n'importe quoi d'autre. Et donc, si vous voulez, vous avez une espèce d'enchaînement comme ça. Et la seule réponse qui était donnée jusqu'à présent, c'était de rajouter des médicaments aux médicaments. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut diminuer les médicaments, il faut aller dehors et prendre un certain nombre de plantes. Encore une fois, on a des alternatives possibles. Se masser aussi, par exemple, avec des huiles essentielles bien diluées. Donc on a de très nombreuses possibilités pour éviter cet usage absolument inimaginable de médicaments. Vous savez, il y a eu une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire que la prise de médicaments était considérée comme un progrès social, et puis le tout chimique partout a séduit à un moment donné. Et on se rendait pas compte de tous les effets secondaires que ça peut avoir. On l'a vu dans l'agriculture avec les pesticides, etc. Mais finalement, une des premières causes d'exposition à des agents chimiques, c'est aussi la prise de médicaments. Or, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, selon, encore une fois, les chiffres de la sécurité sociale, on a entre à peu près 50% des gens qui ont des troubles ou maladies chroniques. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à prendre des médicaments. C'est tout à fait faramineux.
Jacques Florentin, pour autant, on ne peut pas remplacer tous les médicaments par des plantes aujourd'hui, hein.
Non, alors il est incontestable que l'augmentation de la vie nous a été léguée grâce à l'avancement de la médecine, à l'hygiène et aussi aux médicaments. Donc les bienfaits des médicaments est incontestable. Mais c'est vrai qu'on glisse de plus en plus vers un excès. En fait, au départ, l'idéal serait que le médecin puisse disposer d'une palette thérapeutique dans laquelle il puise tantôt des médicaments de synthèse, quand il y en a besoin, une hypertension artérielle essentielle, par exemple, mais qu'ensuite il puisse puiser dans la phytothérapie, dans l'homéo, dans l'aromathérapie, dans les techniques manuelles, etc. Et c'est dans cette palette thérapeutique qu'on aura les meilleurs résultats. Et c'est vrai que rajouter un médicament sur un médicament ou avec un effet secondaire un autre médicament, ça commence par poser problème. Alors malheureusement, je crois que le ministère de la Santé a fait une erreur stratégique en déremboursant tout ce qui est phytothérapie, parce que les médecins et les patients surtout exigeaient du remboursable. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont conscients qu'il faut qu'ils prennent par eux-mêmes en charge une partie de leur santé et qu'ils n'hésitent pas effectivement à pouvoir soulager grand nombre de maux avec des médicaments à base de plantes ou tout simplement des infusions, car on a une efficacité reconnue. Même avec des tisanes.
Oui. Et le problème est d'autant plus important sur les personnes âgées, Laurent Chevalier, parce que plus on vieillit et moins on élimine bien les médicaments.
On élimine moins les médicaments, le rein ne fonctionne plus tout à fait de la même manière, etc. Je voulais juste revenir sur un point concernant l'espérance de vie. En fait, c'est une donnée statistique. À partir du moment où vous n'avez plus de guerre en Europe, l'espérance de vie augmente automatiquement. On le voit juste tout récemment en Syrie, où l'espérance de vie vient de diminuer de 20% en 5 ans. Donc l'espérance de vie, c'est bien sûr, elle a augmenté. Encore une fois, c'est une donnée statistique, mais elle a surtout augmenté en mauvaise santé.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de ce dossier sur les plantes qui soignent. Vos messages, franceinter.fr. Et le mot-clé d'attaque, si vous préférez Twitter.
Nje yeme aralempe ni kimekwem Nsanga sang yani Nje yeme aranuple ni kimembu Kwema sang yani Nje yeme Njeyame Njeyame
JME avec Blik Bassi à l'instant sur France Inter, Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. Ces plantes qui nous soignent, Jacques Florentin est avec nous en duplex de Metz avec ce livre du bon usage des plantes qui soignent. Et puis cette exposition des hommes et des plantes qui soignent aussi à la Roche Jagu. Un mot sur l'exposition, Jacques Florentin ?
Ah oui, c'est tout à fait extraordinaire. C'est en fait une personne qui s'occupe de l'organisation des expositions, qui a organisé cette thématique autour des hommes et des plantes qui soignent. C'est dans un château du 15e siècle, il y a un parc de 70 hectares, et tout ce qui concerne l'histoire de la médecine, l'histoire de la pharmacie, les autres pratiques médicales, l'usage des plantes, l'aromathérapie, tout cela a été parfaitement exposé dans un décor magnifique, et vraiment ça vaut le coup d'aller voir cette exposition.
Et on a jusqu'au 27 septembre pour le faire, exactement.
Voilà, c'est ça.
Laurent Chevalier.
C'est Nolwenn Herry qui l'a réalisé. Oui. C'est vraiment exceptionnel.
Laurent Chevalier, vous êtes également avec nous avec ce livre « Moins de médicaments, plus de plantes » chez Fayard. Cette question de Stéphanie, quel est le pays ou la région du monde où on trouve le plus de plantes médicinales? Et si oui, est-ce que c'est lié au climat, à l'altitude, à la nature du sol ou à un autre critère? Peut-être pour vous, Jacques Florentin.
Écoutez, ça dépend un petit peu des pays. En France, on a 4000 plantes en diversité, en biodiversité. Il y a à peu près 200 plantes médicinales. Dans des régions plus importantes, je pense par exemple en Colombie, on a 40 000 plantes. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 2000 plantes médicinales. On a à peu près 5% de plantes médicinales partout dans le monde. Sur 300 000 espèces, il y en a à peu près entre 15 000 et 25 000. Vous voyez qu'il y a de quoi faire.
En France, alors, on dispose de beaucoup de plantes
dans le monde,
ou pas
En France, on a à peu près 200 plantes d'usage traditionnel. Bon, si on recense tous les usages, aussi les usages ethnobotaniques, on arrivera à des chiffres beaucoup plus importants, on peut arriver à plus d'un millier. Et sur l'ensemble de ces plantes mondiales, 15 000 à 25 000 médicinales, il y en a pratiquement qu'un millier qui a été vraiment étudié de manière très sérieuse.
Et pourtant, Laurent Chevalier,
en pharmacologue, il y a encore du travail.
On utilise énormément les plantes pour les médicaments.
Voilà. Il y a 25% des médicaments qui sont issus des plantes. Il y a 7 médicaments anticancéreux dont on s'est inspiré des plantes pour
lesquelles,
le fabriquer. Ben, par exemple, le Taxol avec l'IF. Donc, on a plusieurs plantes comme ça qui ont inspiré les pharmacologues.
Ouais. Beaucoup de questions des auditeurs. Mona nous dit ceci, il faut se méfier de certaines plantes. Par exemple, la réglisse quand on fait de l'hypertension. On parlait de Napoléon tout à l'heure.
Vrai.
Décidément, ça nous suit pendant toute l'émission.
C'est vrai. Donc, elle a tout à fait raison. Ça peut provoquer un peu d'hypertension artérielle. Ce qu'il faut voir pour les plantes concernant l'estomac, c'est un cas d'espèce qui est très intéressant parce que si vous voulez, Actuellement, on n'opère plus du tout les ulcères, les gastrites, surtout les ulcères de l'estomac du duodénum, alors qu'avant, on le faisait très souvent. On a un médicament qui marche très très bien, qui s'appelle inhibiteur de la pompe à protons.
Et, c'est joli ça. Hein. Inhibiteur de la pompe à protons.
C'est-à-dire qu'en fait, ça lutte contre l'acidité qu'il peut y avoir. Mm-hmm. Et puis, on utilise des antibiotiques parce que dans 70% des cas, même plus pour le duodénum, c'est lié à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Mais parfois, donc une fois que ce traitement a été pris, finalement, la bactérie, elle peut rester. Mm-hmm. Et là, on a deux plantes qui sont très intéressantes en relais plutôt que reprendre des antibiotiques de façon très régulière, qui sont par exemple l'achille et millefeuille, qui, selon des études récentes, permettent de lutter contre cette bactérie, et puis la fumeterre qui est protecteur sur le plan gastrique. Donc on a des relais, des synergies à avoir entre les médicaments et puis ensuite les plantes qui peuvent être utilisées aussi pour certaines au long cours.
Justement Jacques Florentin, on ne peut pas se passer des plantes pour créer des molécules aujourd'hui, clairement.
Jacques Actuellement Florentin. Oui. Donc je vais juste rajouter encore sur les problèmes d'ulcères. Dans ce fameux réglisse, on a aussi démontré qu'il y a quelques molécules qui sont actives sur le fameux Helicobacter pylori. Mais il n'y a pas de preuve clinique de l'éradication. Mais ça peut être un relais intéressant aussi. Et à dose thérapeutique, le risque d'hypertension n'est pas là. Mais évidemment, si on augmente trop les doses et si en plus on suce des bonbons à base de Zan ou de réglisse, là, l'hypertension peut arriver.
Et puis ceux qui
la recherche actuelle. Elle s'est orientée pendant de nombreuses années en regardant un petit peu comment fonctionnaient les traditions et en espérant trouver, guidée par les guérisseurs, de nouveaux médicaments. C'est une stratégie qui s'avère extrêmement compliquée pour deux raisons. La première, c'est, comme l'a dit notre collègue Laurent Chevalier, beaucoup de médicaments ont donné de grands médicaments dans le cancer. Mais la plupart de ces médicaments, de ces plantes qui ont donné de grands médicaments, étaient au départ des plantes toxiques. On en a tiré une molécule, on en a fait un grand médicament. Aujourd'hui, dans tout ce qui regroupe la phytothérapie, l'herboristerie, on a des plantes non toxiques et on n'arrive pratiquement jamais à rattacher l'activité à une molécule. Donc du point de vue développement, du point de vue brevetabilité, c'est très compliqué. De telle sorte que c'est toujours une voie de recherche, mais elle n'est pas prépondérante à l'heure actuelle.
Laurent Chevalier.
Tout à fait. Et par exemple, on a là une plante très intéressante qui s'appelle la digitale. On en a fait un médicament, la digoxine, dans les insuffisances cardiaques. Mais si vous absorbez cette digitale comme ça, si vous prenez la plante entière, vous êtes sûr de mourir directement. Donc c'est le principe actif qui a permis l'élaboration de médicaments. Il faut voir que la nature est une source d'inspiration absolument inimaginable. Je veux dire, on arrive à lutter contre l'espace, on arrive à lutter contre les microbes et pour une raison ultra simple, c'est que la plante, elle ne bouge pas, c'est un être vivant qui ne bouge pas, donc elle a des mécanismes de défense qui lui sont propres. Pourquoi les hommes ne les utiliseraient pas beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement?
Daniel nous dit justement, les plantes peuvent soigner, certes, mais pas n'importe comment. Les mêmes qui soignent peuvent être aussi dangereuses. Un traitement par injection de gui pour soigner l'hypertension m'a provoqué de violents maux de tête et une fièvre importante.
C'est une très bonne idée d'avoir utilisé ça comme ça. Le gui est assez toxique, donc il faut faire quand même très très attention à ce qu'on fait avec les plantes. Vous savez, c'est exactement comme pour les champignons. Il y a des champignons qui sont extrêmement bons, extrêmement savoureux, et puis il y en a d'autres qui sont d'une toxicité redoutable. Donc effectivement, il faut être très prudent par rapport à ça.
Jacques Florentin, que pensez-vous, demande Pierre, de la phytothérapie moderne qui soigne avec des extraits de plantes fraîches standardisées, EPS?
Ah, pourquoi pas? En fait, c'est une excellente technique, puisqu'on va utiliser non seulement les plantes fraîches, mais en plus, on va avoir, je dirais, des solvants, un balayage très large, puisque ça partira de l'eau jusqu'à un mélange d'alcool pur. Donc, c'est des bonnes formes galéniques. Mais on a aussi les extraits hydroalcooliques. On a aussi les teintures mères. On a aussi tout simplement les tisanes. Je pense que quand une plante est de qualité ou un extrait de qualité et qu'on a les doses appropriées et la bonne indication, on a une excellente efficacité. Juste pour revenir sur le gui, effectivement, le gui est une plante toxique qu'on ne va pas utiliser en herboristerie. Il y a eu quelques études, surtout en Allemagne, sur l'utilisation du gui dans des protocoles de traitement complémentaire vis-à-vis du cancer. Ça se fait sous contrôle médical, sous prescription, mais c'est pas du tout une plante d'automédication ni une plante anodine.
Il y a beaucoup de questions sur le millepertuis aussi. Julien nous dit ceci. Cette plante apparaît comme une alternative aux antidépresseurs conventionnels. Quelles sont les précautions à prendre quant à son utilisation, Laurent Chevalier?
Alors, je crois que le millepertuis, d'abord, on en parle à son médecin. Il y a tout un tas d'interactions avec de très nombreux médicaments.
Et donc, même il y a des contre-indications.
Il y a des contre-indications et puis même avec des pilules contraceptives. Mm-hmm. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des alternatives, je veux dire, au millepertuis comme la valériane, la passiflore, si jamais on en a besoin. Le millepertuis peut être parfois un relais quand on a eu un traitement antidépresseur bien mené, et ça peut être un relais pendant quelques temps. Il faut avoir une période de latence, mais on peut prendre au bout de 3 semaines, pendant encore quelques semaines ou quelques mois. Ça rassure un petit peu la personne, mais effectivement, on est très précautionneux avec l'usage de ce millepertuis. Mais vous savez, les interactions qui existent avec les plantes et les médicaments, c'est monnaie courante, mais même dans l'alimentation. Si vous avez un traitement anticoagulant à base d'antivitamine K, il faut faire attention à ne pas prendre de choux. Donc tout ça, c'est bien connu, donc c'est bien codifié, on sait un grand nombre de choses, et bien entendu, il faut être précautionneux avec l'usage des plantes aussi.
Une autre question de Patrice, pour vous peut-être Jacques Florentin, il nous dit ceci, les plantes médicinales ou comestibles des bois peuvent parfois présenter un danger pervers lié aux déjections des renards. Qu'en est-il réellement de ce danger ?
Oui, il peut y avoir effectivement quelques maladies parasitaires comme l'échinococcose qui sont transmises par les déjections des renards. Ça peut être gênant, c'est sûr. Il faut qu'elle soit bien nettoyée, mais je dirais en général, à part les quelques plantes qu'on pourrait avoir dans son jardin, il vaut quand même mieux prendre des plantes qui ont une fiche d'identité conforme à la pharmacopée. C'est-à-dire que là, il y a tout un ensemble d'analyses qui sont effectuées pour la propreté microbiologique, pour la qualité des principes actifs, et surtout pour être sûr d'avoir affaire à la bonne plante.
Et puis aussi, quand on cueille la plante, il faut faire attention à bien la sécher si jamais on veut l'utiliser. Alors, d'une part, il faut qu'on soit sûr de la plante, mais il ne faut pas ensuite qu'il y ait des moisissures qui se mettent sur la plante. Donc c'est très important de bien préparer les plantes, évidemment, en pharmacie ou en herboristerie, on a ce type de plante.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite et fin de notre dossier avec les messages et les questions sur le site de La Tête au Carré.
Qui vous conduit en quelques heures au Sancy.
Ouais, ouais, cool, super.
Tous les bagages pris à l'heure, ça vont bien dit au revoir à Ben Ali.
À la ferme, Jean-Louis Murat sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Les plantes qui soignent avec Jacques Florentin en duplex de Metz et Laurent Chevalier. Vos questions très nombreuses. Caroline nous demande ceci. Est-ce que d'abord vous, chers invités, vous consommez des plantes au quotidien pour être en bonne santé? Lesquelles? Quel est votre régime personnel? Tisane le matin, le soir? Expliquez-nous. Et c'est vrai, allez,
alors,
Laurent Chevalier.
C'est un bon exemple.
On veut tout savoir.
Eh ben, par exemple, il y a une plante que j'aime beaucoup, que j'utilise de temps en temps, qui est l'aubépine. Ça évite de prendre justement toutes ces benzodiazépines, tous ces anxiolytiques. Vous savez, à la fin de la journée, des fois, on a eu la pression parce qu'on a eu beaucoup de monde. Il a fallu prendre des décisions. Moi, je m'occupe beaucoup aussi de dénutrition, de gens malheureusement qui sont parfois aussi en fin de vie. Donc, on a quand même malgré tout un peu de stress. Ce métier de médecin est un métier un peu de stress. Eh bien, ces jours-là, je prends une gélule d'aubépine le soir et ça permet de se détendre et de mieux dormir. Bon. Donc ça, c'est un exemple. Après ça, dans ma pharmacie, disons, familiale, j'ai aussi quelques huiles essentielles en massage externe qui sont diluées. Et par exemple, on peut avoir de l'huile essentielle de romarin, de pin sylvestre, d'eucalyptus citronné. Et par exemple, pour les rhumatismes, ou si je me fais un petit claquage musculaire, c'est très intéressant. Et concernant les rhumatismes, vous avez deux approches qui sont totalement différentes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser les plantes dans l'arthrose pour éviter de prendre tous ces antalgiques, tous ces antidouleurs, tous ces anti-inflammatoires. On peut faire des massages avec des huiles essentielles, encore une fois, toujours bien diluées. On peut prendre des plantes aussi comme le frêne, on peut prendre de la prêle qui participe à régénérer un peu le cartilage. Alors que dans les rhumatismes inflammatoires, on a une révolution qui est arrivée avec des médicaments, des immunosuppresseurs et des anti-TNF-alpha et qui sont extrêmement efficaces. Et donc, on a beaucoup moins de déformations qu'autrefois. Donc, c'est des médicaments qu'il faut prendre. Et là, les plantes sont des adjuvants pour limiter un petit peu les effets secondaires. Donc, vous voyez, les plantes ont leur place dans tout cet arsenal. Et en tout cas, elles aident à ce qu'effectivement, ce que j'appelle la décroissance médicamenteuse.
Jacques Florentin, dites-nous tout. On veut tout savoir sur vous.
Oui, bah écoutez, j'ai un petit peu les mêmes problèmes que Laurent. C'est-à-dire, des fois, le soir, un peu d'insomnie, un réveil nocturne. Donc là, je prends une plante qui m'est réussie parfaitement bien. C'est une plante qui est originaire de Californie, Eschscholzia californica, au pavot de Californie, qui a une très bonne action anxiolytique, inducteur du sommeil. Je voulais rajouter que sur les plantes que tout le monde connaît, que l'on a, on peut avoir tendance à vouloir tester des nouveautés, des plantes de la médecine chinoise, des plantes exotiques de l'Amérique, etc. Et là, il faut être assez prudent, parce que tant qu'elles ne sont pas référencées officiellement, il y a des risques. Mais notre pharmacopée traditionnelle, elle bouge énormément. On a depuis 2 ans une centaine de plantes qui viennent de rentrer, que personne ne connaît, mais qui ont déjà un statut de plante médicinale officielle et qui vont arriver petit à petit. Par exemple, on a rentré en pharmacopée européenne 60 plantes chinoises. Alors on va voir par exemple l'astragale de Mongolie. C'est une plante qui renforce le tsi, les énergies. Mais ça veut rien dire dans notre médecine à nous. Donc il va falloir interpréter les données de la tradition chinoise et de la pharmacologie pour en déduire des usages ici en Europe. Voyez, on a 45 plantes qui viennent de rentrer des départements d'outre-mer. C'est extraordinaire parce que toutes ces plantes n'étaient pas considérées du tout. On ne reconnaissait pas les traditions à la fois de la Réunion et des Caraïbes. Eh bien, ces plantes rentrent officiellement en France. On a fleur jaune, par exemple, qui est une plante très proche du millepertuis, qui est utilisée à la Réunion dans les brûlures d'estomac. Elles arrivent. Mmh. On ne les connaît pas encore, mais comme elles ont un statut officiel, elles vont se développer. Donc,
justement, cette liste officielle, on peut la consulter sur Internet?
Peut-être pas encore sur Internet, mais moi je peux vous l'envoyer sans problème, ou peut-être qu'on pourrait la mettre sur le site de la SFE. C'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, elle est
sur le site de la Tête au Carré, ce serait très utile, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, évidemment, qui aimeraient la consulter, Laurent Chevalier.
Après, il faut voir aussi le lieu, l'environnement dans lequel pousse la plante. Et par exemple, on a la pervenche de Madagascar, qu'on peut trouver dans ce jardin, qui n'est efficace au niveau de ses principes actifs que quand elle pousse à Madagascar. Et à partir de cette plante-là, on a pu extraire des principes actifs justement de médicaments anticancéreux. Donc il y a aussi cet aspect-là dont il faut prendre conscience.
Jacques Florentin, vous nous l'avez dit, le savoir traditionnel, vous l'avez étudié entre autres au Yémen. On va partir ensemble maintenant au Niger, nous, avec Agnès Fèvre, qui avait rencontré sur place, il y a quelque temps, pour la Tête au Carré, un médecin traditionnel.
Donc là, on arrive chez vous. C'est pas très loin du fleuve Niger.
Oui, juste, vous avez une belle vue sur le fleuve.
C'est un bon emplacement, ça, pour faire pousser les plantes?
Oui, ça réconforte même les patients, les malades. Dès qu'ils viennent, ils voient ça, déjà, ils sont guéris. Oui. Bon, en face de vous, là, vous avez l'air de séchage. Ça nous permet de bien sécher nos feuilles.
Ça, c'est quelle plante?
Ça, c'est le Coclosporium planconi. C'est la famille des rhizomes. Donc, c'est les racines qu'on utilise pour traiter les hépatites. Et le palu.
Le paludisme.
Le palu, 25 grammes du Coclosporium planconi, ça c'est le nom scientifique. Ça, vous avez la feuille fraîche et ça c'est la feuille qui a commencé à se sécher. Peut-être demain, s'il ne pleut pas, on peut débarrasser les feuilles de branche pour passer au triage.
Il y a beaucoup de gens qui ont recours à la médecine traditionnelle.
Ça, je vous affirme, les gens ont compris. Vraiment, pour être en forme, il faut aller vers la médecine traditionnelle. Il y a des maladies aussi que la médecine moderne n'arrive pas. Puisqu'on est en collaboration, souvent c'est des médecins, c'est des infirmiers qui nous envoient certaines malades. Par exemple, pour les hépatites, pour le diabète aussi.
Actuellement, les consultations que vous avez, c'est surtout pour quel type de maladie?
C'est le palu, comme c'est la
période. Le paludisme.
C'est la période. Le palu menace. Mais les gens sont satisfaits. Avec 250 francs, tu te traites une crise de palus, c'est largement convenable. C'est toujours le Coclosporium planconi.
Qui est efficace?
Très efficace. On a fait des essais cliniques, on a fait de la comparaison plus efficace que la chloroquine.
Voilà, Agnès Fèvre, donc au bord du fleuve Niger pour la rencontre avec ce médecin traditionnel et ce travail de terrain qui est absolument essentiel, hein, Jacques Florentin, dans l'ethnopharmacologie, justement.
Oui, alors, et vous voyez, ce coclospermum, nous l'avons étudié à Metz. On a effectivement des Africains qui nous envoient des extraits. C'est une plante avec des fleurs jaunes. Donc, elle signe, en fait, une action au niveau du foie. Et elle est effectivement excellente dans les hépatites induites par des toxiques. On a vraiment démontré ses propriétés. Et en général, dans 75% des cas, on confirme les données de la tradition. C'est-à-dire qu'il y a une pertinence exceptionnelle des savoirs traditionnels.
Qui est liée à l'intuition, hein, quand même, au départ. Hein.
Je dirais l'intuition, mais plutôt la sélection.
Oui.
En fait, ça fait 2000 ans que cette sélection se fait, et ce sont les bonnes plantes qui ont été conservées, les toxiques éliminés.
Laurent Chevalier.
Alors, après, il faut voir qu'il y a un véritable tournant qui apparaît il y a à peu près 5-6 ans, je dirais, où les analyses qui sont faites sur les plantes commencent à apparaître dans des grandes revues internationales à comité de lecture.
Oui.
Alors, elles ont leurs limites, bien entendu, mais moi, je me suis basé aussi beaucoup là-dessus pour... les utiliser pour les patients. Et en fait, on a des pays comme en Iran, comme en Turquie, comme en Amérique du Sud, où ils ont des méthodes d'analyse qui sont des méthodes d'analyse contemporaines tout à fait fiables. Dans des grandes revues, donc c'est vraiment d'un grand secours. Et effectivement, finalement, on décrypte les mécanismes qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et finalement, le savoir empirique est souvent validé. Et ce qui est très très important pour nous et pour pouvoir avancer par rapport à ça. En sachant que dans les formes d'utilisation des plantes, les tisanes sont quand même très utiles, l'eau est un solvant, les extraits secs en gélules. Et quant aux huiles essentielles, le principe actif est très concentré. Il faut faire attention à l'absorption de ces huiles essentielles. Et moi, je ne les préconise uniquement en usage externe et bien diluées dans une huile végétale.
Attention.
Type huile de noisette ou huile de rose musquée.
Ouais. Et attention
du chili
aux enfants, hein, en particulier.
Et très attention aux enfants et aux femmes enceintes, bien entendu.
Jacques Florentin, cette question de Ginette, je suis personnellement adepte de la phytothérapie. Le problème, c'est celui du dosage, dit-elle, bien plus pratique à évaluer lorsqu'on utilise des comprimés chimiques.
Écoutez, le dosage, on a beaucoup de données en pharmacologie animale, c'est-à-dire sur des essais chez l'animal, sur des cultures cellulaires. On en a un petit peu moins en expérimentation clinique, mais on a réussi au niveau européen à déterminer maintenant des doses en ce qui concerne les plantes qui sont conformes à l'activité qu'on peut en espérer.
Laurent Chevalier.
Mais c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet.
Aurélien sur Twitter, les plantes ont-elles moins d'effets secondaires que les médicaments ?
Alors,
en règle générale,
les plantes peuvent avoir aussi des effets secondaires. Ce qu'il faut, il faut un bon usage des plantes. Et encore une fois, c'est une complémentarité. Et par exemple, donner un exemple très précis, la feuille d'artichaut peut être utilisée contre les affections du foie. Mm-hmm. Et notamment, par exemple, dans les chimiothérapies, eh bien, on peut régénérer le foie plus facilement avec des plantes. Et on peut, disons, avoir des séquences plus rapprochées de chimiothérapie grâce à ces plantes, en sachant qu'il peut y avoir aussi des interactions, donc il faut faire attention pour d'autres plantes. Donc les plantes sont très utiles dans le schéma général, dans la prise en charge générale des personnes, et c'est surtout l'excès de médicaments qui finalement pose des grands problèmes, mais bien entendu, les plantes ne sont pas non plus anodines.
Jacques Florentin, dernière question très rapidement, Ludovic à Taïwan, et on le salue, que pensez-vous des plantes transformées en compléments alimentaires, vendues à prix fort et à grand renfort de marketing ?
Ah ben ça c'est une catastrophe, effectivement, parce qu'on joue sur le marketing et il faut plutôt se réorienter vers des plantes médicinales classiques ou des compléments alimentaires mais qui restent dans des tarifs corrects. Il faut être très vigilant sur Internet, surtout si ces sociétés n'ont pas pignon sur rue en France. Un dernier mot,
très vite.
Nous allons organiser en mai 2016 un premier congrès sur les thérapies complémentaires pendant 3 jours, du 27 au 29 mai. On abordera toutes ces questions pour savoir quelles sont leurs places dans la thérapeutique.
On aura le temps d'en reparler puisqu'on a presque un an devant nous. Merci beaucoup Jacques Florentin, merci aux équipes de France Bleu à Metz, du bon usage des plantes qui soignent, préfacé par Jean-Marie Pelt avec de très belles photos. Il y a une magnifique iconographie, c'est aux éditions Ouest France. Et puis Laurent Chevalier, moins de médicaments, plus de plantes, c'est aux éditions Fayard. Et on n'oublie pas donc l'exposition qui se trouve à la Roche Jagou en Bretagne, des hommes et des plantes qui soignent, c'est jusqu'au mois de septembre.